Radio Prague, les informations.
Bonjour, le ministre de la Justice a été démis de ses fonctions. Opposé à l'union bancaire, le Premier ministre tchèque n'attend pas de décision concrète lors du sommet européen. Et puis enfin, sauvegarde du cheval de Przewalski, le zoo de Prague va envoyer 4 nouvelles juments en Mongolie. Le président de la République, Václav Klaus, a destitué ce mercredi le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, sur demande du Premier ministre, Petr Nečas. Jiří Pospíšil a réagi en faisant savoir qu'il a respecté la décision du chef du gouvernement. Selon lui, le Premier ministre aurait justifié sa décision par la demande de Jiří Pospíšil d'augmenter le budget de son ministère dans le cadre des préparatifs du budget 2013. Le Premier ministre aurait déjà le nom du remplaçant de Jiří Pospíšil à ce poste, mais son nom n'a pas encore été rendu public. Les rumeurs sur une révocation du ministre de la Justice allaient bon train depuis quelque temps en lien avec les conflits internes du monde judiciaire, notamment autour de la question du représentant du ministère public supérieur de Prague. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants dans nos faits-événements. Le Premier ministre Petr Nečas ne s'attend pas à ce que la tenue du sommet européen, ces jeudi et vendredi à Bruxelles, permette d'aboutir à des conclusions et décisions concrètes. C'est ce qu'il a fait savoir ce mercredi, tout en rappelant qu'il n'était pas d'accord avec le projet d'union bancaire qui, selon lui, serait néfaste à l'économie tchèque. Selon les documents transmis par Bruxelles au gouvernement tchèque, l'union bancaire devrait permettre une intégration plus importante. Or, Petr Nečas affirme voir, je cite, « tout affaiblissement du régulateur national comme une chose très compliquée ». Fin de citation. Le sommet européen de cette fin de semaine se penchera, rappelons-le, sur des mesures spécifiques à une union bancaire, d'une plus forte intégration budgétaire et de la possibilité d'un fonds de remboursement de la dette. La capacité de production de la centrale nucléaire tchèque de Dukovany dans le sud du pays a été augmentée à 2000 MW contre 1760 auparavant, a annoncé son porte-parole. Cette augmentation est résultat d'un programme complexe de modernisation. La montée en puissance permet ainsi au site de Dukovany d'atteindre la même capacité de production que l'autre centrale tchèque située à Temelín dans le sud-ouest. Le site de Temelín doit encore monter en puissance avec la construction prévue de 2 nouveaux réacteurs représentant un investissement de 20 milliards d'euros. Le président de la République a annoncé ce mercredi que les élections régionales et sénatoriales se tiendraient les vendredis 12 et samedi 13 octobre. Les partis politiques tchèques ont désormais jusqu'au 7 août pour présenter leur liste de candidats. Le Parti social-démocrate, qui dirige les 14 régions du pays, hormis Prague depuis 2008, va devoir batailler pour conserver ses fiefs, de même que ses sièges au Sénat, où il est majoritaire. Rappelons que le Sénat tchèque comprend 81 sièges et que ses membres y sont élus pour 6 ans. Le président de la République, toujours lui, a signé ce mercredi le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Récemment adopté par le Parlement, le processus de ratification est ainsi complètement achevé. En fin d'année dernière, l'ambassadeur de Croatie en République tchèque avait pourtant fait part de ses craintes que le processus d'adhésion de son pays à l'Union européenne puisse être entravé par la République tchèque, expliquant que le Premier ministre entendait lier l'intégration de la Croatie à la dérogation tchèque relative à la charte des droits fondamentaux dans le traité de Lisbonne. Le ministre des Affaires étrangères avait toutefois précisé que les deux dossiers ne pouvaient pas être liés. Rappelons que la Croatie devrait devenir le 28e pays membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013. Avant cela, le traité d'adhésion doit être ratifié par chaque État membre. Le zoo de Prague enverra le 16 juillet prochain 4 nouveaux chevaux de Przewalski en Mongolie. Les jeunes juments seront transportés dans un avion militaire Kassa et renforceront le troupeau vivant dans le parc national de Gobi Bay et qui a subi des pertes importantes lors de l'hiver en 2009 et 2010. Le zoo de Prague, qui joue un rôle majeur dans les efforts pour sauvegarder cette espèce qui a failli disparaître, élève depuis plusieurs décennies avec succès des chevaux de Przewalski, des chevaux sauvages qui n'ont survécu qu'en captivité depuis les années 1960. L'année dernière, 4 chevaux avaient déjà été envoyés depuis Prague, et ce pour la première fois en Mongolie. On termine avec un mot de météo. Après une journée de mercredi largement ensoleillée, les nuages sont de retour et donneront un temps variable à couvert ce jeudi, jour de la fête des Lubomir. Quelques averses sont attendues, notamment dans le nord du pays. Les températures varient entre 22 et 27 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Paul Bauer.
faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de notre programme quotidien de Radio Prague. Merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. En titre aujourd'hui, le Premier ministre Petr Nečas a limogé le ministre de la Justice Jiří Pospíšil. L'Académie des sciences se défend contre la baisse de son budget. Et enfin, en deuxième partie d'émission, Jarka Gisubelova vous propose de revoir de nouveaux faits inédits sur le détournement d'avions en Allemagne par 10 jeunes tchécoslovaques réalisés il y a 40 ans. Bonne écoute à toutes et à tous. Le Premier ministre Petr Nečas a limogé le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, une décision que le chef du gouvernement a justifiée par une incapacité du ministre à gérer son budget et à respecter la discipline budgétaire commune. Mais du côté de l'opposition, on y voit un moyen de faire pression sur certains secteurs de la justice en lutte contre la corruption endémique du pays. Les détails avec Anna Kubishta.
Les bruits de couloir, disait le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil, sur la sellette ce mercredi. Sa révocation par le Premier ministre Petr Nečas vient confirmer les rumeurs. S'exprimant dans la matinée sur le sujet, le chef du gouvernement a taclé l'ex-ministre de la Justice, justifiant sa décision par la dissidence de Jiří Pospíšil en matière de discipline budgétaire. Selon Petr Nečas, il n'y a pas d'alternative en matière de rigueur, soit les membres de la coalition au pouvoir sont unanimes, soit ceux qui ont un avis divergent l'assument et quittent le bateau.
La raison de ma décision, mûrement réfléchie, est que M. Pospíšil gérait son budget de manière irresponsable. Je ne peux accepter que tout le gouvernement fasse des coupes budgétaires, qu'en début de cette année, en raison de ces coupes, un ministre démissionne menaçant l'existence du cabinet et que quelques semaines plus tard arrive sur ma table une demande d'augmentation du budget de la justice d'un milliard de couronnes. Cette action a eu un effet démoralisateur sur tout le gouvernement car j'exige la rigueur budgétaire de tous les membres du cabinet.
Si Petr Nečas insiste lourdement sur un soutien sans faille de tous ses ministres, cette décision s'inscrit également dans un contexte de troubles au sein de la justice tchèque. En effet, à la mi-juin, le président du ministère public, Vlastimil Rampola, a démissionné de ses fonctions, un départ qui faisait suite à une première révocation par le ministre de la Justice, Jiří Pospíšil. Celui-ci s'en était alors félicité, espérant un assainissement et une réforme du ministère public, où le travail de Vlastimil Rampola s'était caractérisé par de nombreuses infractions et une inactivité marquante dans les affaires les plus brûlantes. De même à l'affaire Casa, dans laquelle est impliquée la vice-présidente de la Chambre des députés Vlasta Parkanova, top 09, soupçonnée d'être responsable d'un achat douteux d'avions militaires réalisé en 2009. La police a demandé récemment la levée de l'immunité de cette proche du ministre des Finances, Miroslav Kalousek, également membre du parti top 09. Du côté de l'opposition social-démocrate, en dépit du fait que Jiří Pospíšil soit un adversaire politique, on craint que cette révocation soit un moyen d'empêcher la justice de se réformer alors que ces deux affaires touchent de près le gouvernement. Jeronim Tejc, député de ČSSD.
Cette décision n'est que le début de pression exercée sur le ministère public. Je suis convaincu qu'il s'agit là d'une punition contre le ministre de la Justice parce que la police, avec l'autorisation du ministère public, a demandé la poursuite en justice d'un membre important d'un parti de la coalition et proche de Miroslav Kalousek. Nous craignons que même si finalement une procédure judiciaire est entamée contre Vlasta Parkanova, l'affaire n'arrive jamais devant les tribunaux, que cette décision soit un moyen de pression sur le ministère public, une manière de dire « le ministre a été limogé, cela peut aussi vous arriver ».
Les commentateurs politiques, quant à eux, doutent également de la véracité des raisons du Premier ministre. Pour Jindřich Šídlo, du quotidien économique Hospodářské noviny, celles-ci sont plus une excuse qu'autre chose.
Ce que l'on voit ici, c'est que le ministre est littéralement jeté dehors. C'est quelque chose qui se passe quand le Premier ministre perd totalement confiance en un ministre. Et je ne peux croire que Petr Nečas ait soudain, hier ou aujourd'hui, perdu cette confiance, prétendument pour des raisons de non-respect de la discipline budgétaire en prévision de 2013. Si ce problème s'était manifesté cette année, je comprendrais. Mais là, nous ne sommes que dans la phase de négociation du budget 2013 et il ne sera voté que pendant l'été, avant d'être envoyés au Parlement à l'automne. Donc nous sommes dans une phase où traditionnellement tous les ministres augmentent leurs demandes relatives au budget. Donc on ne peut prendre au sérieux ce limogeage avant les vacances.
Certains commentateurs soulignent également que la semaine dernière, le représentant du ministère public supérieur, Pavel Zeman, a remis à Jerzy Pospíšil sa proposition de nommer à la place de Vlastimila Rampula la procureure Lenka Bradáčová, qui s'est illustrée dans l'arrestation du député David Rath. Jerzy Pospíšil a confié à la presse qu'il était prêt à nommer à ce poste cette femme à la réputation sans tache, alors même qu'il était critiqué par son premier ministre pour sa gestion du ministère public. Une nomination qu'il ne fera donc plus. En attendant, le premier ministre Petr Nečas a fait savoir qu'il nommerait le nouveau ministre de la Justice d'ici la semaine prochaine.
L'année prochaine, l'État tchèque accordera à la recherche, au développement et aux innovations 25,9 milliards de couronnes, environ 996 millions d'euros. C'est une diminution de 700 millions de couronnes, environ 27 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Cette diminution risque de frapper notamment l'Académie des sciences, dont le budget pourrait être radicalement réduit. En 2013, la réduction du budget de l'Académie par rapport à cette année pourrait atteindre 295 millions de couronnes, environ 11 millions d'euros. Václav Richter.
L'Académie des sciences de la République tchèque réunit 51 instituts de recherche en sciences exactes et humaines. Elle compte quelque 6 400 employés. Son organe suprême est le Congrès académique qui élit le président de l'Académie pour un mandat de 4 ans. Actuellement, c'est le chimiste Jiří Drahoš qui occupe ce poste. Il affirme ne connaître aucune raison sérieuse justifiant une coupe aussi radicale dans le budget de son institution.
Les raisons de la réduction de notre budget de 300 millions de couronnes ne sont pas claires. Cela nous a été présenté par le Conseil pour la recherche scientifique comme une décision politique. Selon cette décision, l'Académie des sciences devrait doter la recherche scientifique dans le domaine industriel et dans celui de l'enseignement supérieur. Personne ne nous a dit pourquoi. Aucune raison rationnelle des réductions de notre budget, qui diminue depuis 2009, ne nous a été donnée.
Si l'Académie des sciences est obligée de réduire son budget aussi radicalement, elle sera contrainte, selon son président, de licencier des chercheurs et ne pourra pas acheter le matériel scientifique nécessaire à la recherche chimique, biologique et génétique. La coupe se reflèterait aussi dans la baisse des salaires des employés, ce qui pourrait provoquer le départ des meilleurs chercheurs à l'étranger. Interrogé par la presse sur cette éventuelle coupe dans le budget de l'Académie, le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, n'a donné qu'une réponse assez évasive en constatant que la décision définitive n'avait pas encore été prise.
Le gouvernement n'a pas approuvé aujourd'hui le montant des moyens qui seront accordés en 2013 à la recherche scientifique, mais seulement les limites pour les gérants des différents secteurs de la recherche. Ils doivent maintenant répartir ces moyens et évaluer quelles seront les conséquences de ces limites. Le gouvernement n'a rien approuvé d'autre que la résolution unanime du Conseil gouvernemental pour la recherche scientifique. Nous considérons que ces résolutions feront encore l'objet de négociations politiques.
Et le ministre de souligner qu'il n'est pas encore possible de définir quel sera en 2013 le budget de l'Académie des sciences et quelles seront les conséquences de cette décision gouvernementale. Les subventions de l'État représentent 42% du budget de l'Académie des sciences. Le reste est assuré par des services payés et les moyens financiers qu'elle reçoit pour la réalisation des projets individuels des fonds de l'Union européenne.
Il y a tout juste 40 ans, en juin 1972, un groupe de 10 jeunes gens contraints à les pilotes d'un avion sur la ligne Prague-Marianské-Lazny a changé de direction. Leur but, passer en Allemagne de l'Ouest. L'un des deux pilotes a été tué par balle par le leader du groupe qui s'est donné plus tard la mort dans une prison allemande. Mimikry, un épisode de la série télévisée, Les 30 affaires du major Zeman, inspiré de la scène du détournement d'avion, a servi dans les années 1970 la propagande politique du régime communiste. L'objectif était de dénoncer la culture underground et les jeunes groupes de rock, dont plus particulièrement The Plastic People of the Universe. 40 ans plus tard, une exposition intitulée « Envol 72 » proposée par le Centre d'art contemporain Pragois Dox a apporté des témoignages inédits prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité du pilote, mais d'un homicide involontaire. Les détails avec Irka Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
L'idée de reconstituer l'affaire vieille de 40 ans est venue au plasticien Petra Vrana, installé depuis 1981 à Kassel, en Allemagne, où il a fait la connaissance de plusieurs acteurs de l'affaire. Il a jugé indispensable d'aller chercher la vérité et de la faire connaître au public. 6 dossiers originaux des archives des services de sécurité tchécoslovaques apportant des témoignages inédits sur la manipulation du procès ont été présentés à l'exposition. En les publiant, Petr Vrana a souhaité lancer un débat sur un sujet aussi controversé que le cas des frères Machine dans les années 1950.
Nous avons travaillé avec les archives de sécurité.
Les recherches effectuées dans les archives des services de sécurité, consistant dans la lecture de plusieurs milliers de pages, nous ont permis de reconstituer le déroulement réel du détournement d'avion. J'ai collaboré avec 2 anciens colonels de la police criminelle et 1 médecin légiste. Dans les archives, nous avons retrouvé un compte-rendu d'autopsie dont on ignorait complètement l'existence. En réalité, 2 autopsies du corps du pilote tué, Jan Mičica, ont été effectuées. Une en Allemagne, dont s'est servi le tribunal, une autre jusqu'à présent secrète en Tchécoslovaquie, où le corps du pilote a été transféré 3 jours après l'incident. Le professeur Šňupárek de l'hôpital militaire de Prague, qui a effectué cette autopsie, a prouvé que la balle a pénétré la partie latérale du dos du pilote et donc qu'elle n'a pas été tirée dans le cou par derrière. Preuve indubitable qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre prémédité, conçu à l'avance, mais d'un homicide involontaire. Le pilote a tenté d'arracher le pistolet de la main du ravisseur et c'est ainsi que le coup est parti.
Le détournement a eu lieu le 7 juin 1972. L'avion L410 de la compagnie Slov Air, sous la ligne Marianské Lázně Prague-Lučenec, a été pris en otage par un groupe de 10 jeunes gens, dont 3 filles. Armés de 2 pistolets, ils ont forcé les pilotes à atterrir à Munich. Un représentant de la compagnie Slov Air, présent à bord de l'avion, du nom de Clementis, a essayé d'intervenir contre eux. Un accrochage s'est produit ensuite dans le cockpit. Le capitaine de l'avion Jan Mičica s'en est mêlé. Atteint d'une balle partie du pistolet de Lubomír Adamica, il meurt. Le deuxième pilote, Dominik Hrobák, a ensuite atterri à l'aéroport de Weiden en Bavière. Les ravisseurs, dont l'âge moyen était de 21 ans, ont été jugés et incarcérés en Allemagne. Les peines prononcées allaient de 3 à 7 ans. Le principal acteur du détournement, Lubomír Adamica, accusé de meurtre, s'est suicidé dans sa cellule. Un autre membre du groupe, Milan Trčka, a commis une tentative de suicide manqué. Le détournement de l'avion de la compagnie Slov Air en juin 1972 a largement servi la propagande politique du régime communiste tchécoslovaque qui a manipulé les faits à sa guise. Le cas des ravisseurs a été utilisé pour présenter la culture underground en tant que culture de toxicomanes, de hippies et de criminels et pour déclencher des représailles contre ses représentants et les opposants au régime. En 1990, le président Václav Havel a accordé la grâce à tous les condamnés. L'un d'entre eux, Jaromír Kerber, alias Johnny Heaven, qui a passé plus de 20 ans en établissement psychiatrique, explique que le groupe s'est décidé de détourner un avion après le refus réitéré des autorités de leur délivrer un permis de voyager, document nécessaire sans lequel il n'était pas possible de passer légalement la frontière sous le régime précédent.
La vie ici, ce n'était pas notre mode de vie. Sincèrement, nous étions convaincus que nous pourrions vivre librement dans une communauté hippie.
Pour un autre membre du groupe, Jaromír Dvořák, la tragédie aurait pu être évitée si le représentant de la compagnie Slov Air ainsi que le pilote n'étaient pas intervenus contre eux, d'autant que les règlements l'interdisaient. On l'écoute.
À l'époque, les Tchèques avaient signé un accord selon lequel, en cas de détournement d'avion, le pilote ne devait pas s'opposer à ses ravisseurs.
Arrivé à Prague de Munich où il vit, Jaromír Dvořák se dit choqué par les nouveaux témoignages rendus publics et dont il découle que le deuxième pilote Dominik Hrbak ainsi que l'employé de Slover Clementis ont donné de faux témoignages contre les membres du groupe et que le procès a également été du côté allemand manipulé. Explication par Petr Vrana.
La presse ouest allemande, tout comme d'ailleurs l'ensemble des médias, se sont alors basés sur le rapport d'autopsie du médecin légiste allemand Latka. Or, ce médecin a fait une chose incroyable. Après avoir prélevé les tissus à l'endroit de l'entrée et de la sortie de la balle, il a caché l'uniforme du pilote tué, empêchant d'examiner les traces de la poudre noire. On ne sait pas pourquoi il a fait cela. En tout cas, le procureur allemand Wilhelm Mayer a porté plainte pour assassinat. À l'aide des documents d'archives, nous prouvons les manipulations de Mayer et son lien avec les services de la police secrète tchèque, la STB.
La question qui se pose est de savoir pourquoi le rapport d'autopsie effectué à Prague a été tenu secret, pourquoi le tribunal allemand n'en a pas tenu compte. Une explication probable est donnée par Ivo Pejčok de l'Institut d'histoire militaire et auteur de livres sur les fuites au-delà du rideau de fer.
La société ouest-allemande, inquiète des détournements d'avions et des actes terroristes commis par des extrémistes de gauche, comme le groupe Fraction Armée Rouge du duo Bader-Meinhof, désapprouvait vivement ce type de violence. Ceci dit, on ne peut pas s'étonner que les peines prononcées contre ces jeunes tchécoslovaques aient été relativement sévères. À en juger d'après la presse de l'époque, la réaction de l'opinion ouest-allemande à cet acte a été nettement négative.
Dubového tisku tenhle ten únos přijala velmi negativně.
En 1972, ce n'était pas le premier détournement d'avions tchécoslovaques en Allemagne. En avril de la même année, un groupe de deux récidivistes avait déjà pris en otage les pilotes d'un même avion. Un tribunal allemand les avait alors condamnés à 7 ans de réclusion. Compte tenu de l'activité croissante du terrorisme aérien, le monde occidental condamnait sévèrement les détournements d'avions, y compris ceux motivés par l'immigration, comme le souligne pour sa part l'historien Petr Blažek.
Bien que cet acte ait eu pour conséquence la mort tragique du pilote, ce qui est une perte énorme et irrémédiable, notamment pour sa famille, il convient de rappeler de notre côté que ces gens fouillaient un monde qui n'était pas libre.
Cette tentative tragique de fuir à l'ouest, il y a 40 ans de cela, a complètement changé la vie de ces acteurs. La moitié d'entre eux ne sont plus en vie aujourd'hui. L'un des deux hommes venus à l'exposition, Jaromír Kerbl, souffre de troubles psychiques graves et ne peut plus se passer de médicaments. La peinture et la musique au sein du groupe Mimikry Band l'aident à oublier la tragédie dont il ne cesse de ressentir un sentiment de responsabilité. Les nouveaux témoignages sur l'incident, il les a accueillis avec soulagement.
C'est un grand soulagement pour moi d'apprendre que c'est désormais sûr et prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre commis dans l'intention de donner la mort au pilote. Pour moi, ça a été une grande satisfaction de voir la vérité éclater au grand jour. Nous attendions cela depuis plus de 30 ans.
Vánek nepocití, nespím ven, další pilulku si vem. Jsem na psychiatrii,
spirité psychiatrii,
lásku skrze chemii, haloperidol blue,
haloperidol blue.
Haloperidol blue,
haloperidol blue,
haloperidol blue, haloperidol.
Merci à Jarka Gisubelova pour cette rubrique historique. C'est la fin de ce programme d'information. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur nos pages internet www.radio.cz/fr. Au revoir, ahoy.